Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Je suis Marie, animatrice de la Conf de l'Ain, et aujourd'hui c'est avec Xavier Fromont que nous sommes à Radio B. Ensemble, nous allons aborder les actus sur les semences et les OGM. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Xavier, c'est la deuxième fois que tu viens à Radio B. L'an dernier, au mois de décembre, tu es venu présenter les semences paysannes. Et aujourd'hui, c'est sur les organismes génétiquement modifiés qu'il y a des actualités importantes qui nous semblent essentielles à diffuser.
Oui, bah effectivement, c'est vrai qu'on est rattrapé un petit peu par l'actualité, puisque début juillet, il y a eu un projet de la Commission européenne sur ces semences OGM, de réglementation en fait, et qui va libéraliser, qui voudrait libéraliser cette production et cette vente de semences OGM, et qui ce règlement aurait vraiment un impact très important pour les agriculteurs, pour les paysans en général et pour l'alimentation de nos pays européens.
D'accord. Pour remettre un petit peu dans le contexte, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement l'histoire des OGM et puis des victoires syndicales aussi sur la thématique ?
Oui, disons déjà que les semences, d'une façon générale, ont été de tout temps un cheval de bataille de la Confédération paysanne, et il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été obtenues aussi bien par la création du réseau semences paysannes. Voilà, je vous en avais parlé assez longuement la dernière fois. Entre autres, c'est la Confédération paysanne, mais qui a mené vraiment le combat contre les organismes génétiquement modifiés. Donc ça s'est traduit très rapidement par quelque chose de très important qui est la directive de 2001 qui réglemente ces OGM, qui en définit la traçabilité obligatoire, c'est-à-dire que chaque consommateur doit pouvoir savoir si dans un produit qu'il consomme il y a des OGM ou il n'y en a pas.
D'accord.
L'évaluation de ces semences, ça c'est le deuxième point très important, c'est-à-dire que pour être commercialisée, une semence OGM, elle doit faire preuve de son innocuité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la santé humaine, comme de la santé des animaux d'une façon générale. Et donc, un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est que ça prévoit aussi l'étiquetage des OGM. Mmh. Donc, tout le monde doit être, encore une fois, tout le monde doit être au courant s'il y a des OGM ou s'il n'y a pas OGM dans tel produit, même jusque dans les produits transformés, puisque ça définit des seuils au-delà duquel on est obligé de noter qu'il y a des OGM dans le produit. Donc cette directive, elle est vraiment centrale et ça a été un combat des faucheurs volontaires, de José Bové, entre autres. Voilà. Donc on peut dire de façon assez claire que s'il n'y avait pas eu la conf à ce moment-là, on aurait eu une généralisation des OGM.
D'accord.
Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est de se dire que ces OGM dont on nous promettait monts et merveilles, ça allait résoudre le problème de la faim dans le monde, ça allait, En fait, ils ont été finalement relativement peu cultivés, si ce n'est en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Mmh. Et ils n'ont pas fait progresser les rendements. Il y a vraiment, finalement, la justification qui avait été donnée à ces OGM tombe assez largement à plat ou à l'eau. Et donc, du coup, c'est important de se le rappeler.
Est-ce que tu as en tête les variétés qui sont le plus cultivées en OGM ?
Oui, c'est aussi très important de le rappeler. En fait, c'est des OGM pesticides, des plantes pesticides en fait, qui ont D'accord. été mis au point. Soit les plantes, on leur a mis un gène qui leur permet de produire un insecticide qui va tuer toutes les bestioles qui peuvent les attaquer.
Okay.
Donc c'est le fameux BT, surtout pour du maïs, surtout pour du maïs en fait. Et puis autrement, c'est des plantes qui sont résistantes à un désherbant qui est le glyphosate. Et on ne se demande pas pourquoi ce glyphosate il s'est répandu et il a pris de l'importance partout dans le monde, c'est qu'en fait, les firmes qui vendaient le glyphosate ont mis au point des plantes qui étaient résistantes à ce désherbant, et dans l'objectif de faciliter finalement la culture. Mais en gros, ça a multiplié l'utilisation de ce désherbant. Et ça fait que y a du désherbant un peu de partout. Enfin, il y a du glyphosate un peu de partout maintenant dans les aliments qu'on mange. Quoi. Voilà, c'est un peu le résumé.
Ça marche. Du coup, tu parlais des mensonges, des promesses faites grâce au GGM, on va résoudre la faim dans le monde. Aujourd'hui, la CONF, elle dénonce encore des mensonges de la part de la Commission européenne sur ce nouveau règlement.
Oui, alors c'est intéressant de resituer le truc aussi, c'est que au départ, en fait, donc les OGM, les anciens OGM, en fait, ils étaient obtenus par transgénèse. Donc, en fait, on allait récupérer des gènes d'autres espèces, d'autres espèces animales ou végétales, et qu'on allait implanter dans le patrimoine génétique de la plante qu'on voulait cultiver, et pour sélectionner un caractère, dont la production de toxines BT ou la résistance au glyphosate, finalement. En grande partie, ça a été ça. Bon, après, il y a eu quelques autres OGM, mais l'essentiel, c'était ça. Et en fait, là, les firmes ont trouvé un truc génial, c'est que maintenant, avec l'avancée scientifique, notamment la cartographie du patrimoine génétique, l'inventaire aussi généralisé de ce patrimoine génétique, en fait, on travaille par cisgénèse ou par mutagénèse, et donc là, on va prendre un gène, mais dans la même espèce, mais d'une variété qu'on aura récupérée dans les antipodes, par exemple, qui va nous intéresser pour un gène particulier, et l'implanter dans la même, dans la même espèce, dans une variété que là, nous, on va vouloir cultiver, quoi, qui est sélectionnée pour ses rendements ou pour autre. Voilà. Et donc, en fait, tout le travail des lobbies et des obtenteurs végétaux, c'était de dire, en fait, ces plantes qui sont sélectionnées par nouvelles technologies génomiques, ce ne sont pas des OGM, puisque vous voyez, on récupère les gènes de la même espèce, il n'y a pas de transgénèse. Et en fait, ce sont les mêmes plantes que les plantes qui s'obtiennent par sélection naturelle. Et donc, il n'y a pas de problème, on peut les cultiver sans aucune appréhension. Alors qu'en fait, elles sont obtenues en laboratoire, avec... l'utilisation de substances avec vraiment un travail scientifique, un travail de laboratoire et pas du tout une sélection naturelle, quoi, en fait, voilà. Et donc nous, ce qu'on dénonce, c'est la première chose, c'est qu'en fait ces plantes obtenues par NTG, ce sont bien des OGM, et donc elles doivent être évaluées comme telles, comme elles sont soumises à la directive de 2001. Et d'ailleurs, il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui le prévoit, en tout cas qui dit oui, ces plantes, elles sont bien, ce sont bien des OGM, elles devraient être soumises à cette réglementation. Et donc la Commission dit non, dans son projet de réglementation, dit non. Et en plus, ça comporte un inconvénient supplémentaire, c'est que en fait chaque transformation génétique est brevetée.
D'accord.
Et donc c'est carrément ce qu'on dénonce depuis un bon paquet de temps, c'est le brevetage du vivant qui avance petit à petit et qui est vraiment catastrophique, puisque en fait n'importe quelle, c'est même pas la plante qui est brevetée, qui est soumise au brevet. Mais c'est carrément le séquençage, c'est-à-dire la partie de génétique, de gènes qu'on aura implanté dans la plante.
D'accord.
Donc en fait, si on la retrouve dans une autre variété, l'organisme semencier pourra dire, regardez, vous avez ce gène, vous avez cette partie partie de gène qui est dans cette plante, donc vous êtes soumis à des royalties à payer à la boîte en question. Enfin voilà, en fait, c'est le droit de la propriété qui est étendu au vivant. Donc c'est le deuxième scandale en fait de ce projet de réglementation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se mobilise beaucoup et qu'on entend quand même mobiliser l'ensemble de la communauté, des consommateurs autour de cette question-là.
Sur la question du brevet, il y a aussi quelque chose qui changerait là, c'est le concept d'inversion de la charge de la preuve. Qu'est-ce que ça implique?
C'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est complètement hallucinant. Quand on prend en compte ça, les bras nous en tombent, quoi. Aujourd'hui, très clairement, c'est plutôt la firme qui doit prouver que votre plante, elle comprend le gène en question. Le règlement que nous propose la Commission européenne, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le type qui, le paysan qui cultive son blé ancien depuis très longtemps, qui s'il est mis en accusation par la firme, devra prouver que la séquence génétique que contient son blé ancien, qui, encore une fois, qui cultive peut-être depuis des générations, eh ben, cette séquence, elle est bien le patrimoine naturel de sa variété, et ce n'est pas la séquence génétique qui a été obtenue par génie génétique, par la firme en question. Donc, vous imaginez, vous voyez bien que l'extension des semences fermières, par exemple, tout ça est directement mise en cause par cette question-là. Hein, voilà. Personne n'aura les moyens, aucun paysan au monde n'aura les moyens d'instruire, de faire un dossier de preuve pour dire que la variété qu'il cultive, eh bien, elle s'est sélectionnée naturellement. Et voilà, c'est quasiment impossible. Surtout que ça veut dire aussi la nécessité d'anticiper. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait carrément, quasiment cartographier l'ensemble des variétés anciennes ou des variétés nouvelles d'ailleurs qui sont cultivées de façon fermière aujourd'hui, pour dire, ben voilà, le matériel génétique, c'est bien, il a bien été acquis naturellement, et donc c'est bien celui qui est propre à la variété qu'on cultive, quoi.
Ça marche. Bon, législativement, il y a quand même une faille. Les accords internationaux priment sur le droit de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a une carte à jouer là-dessus ?
Ben on l'espère en tout cas. Hein. Il y a eu de nombreux arrêts internationaux sur le droit d'utiliser les semences. Parce qu'il faut dire quand même que nous, on le regarde avec notre regard d'agriculteur européen, mais c'est un souci vraiment au niveau mondial. C'est un souci de souveraineté alimentaire pour de nombreux pays. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, les OGM, c'était plutôt des cultures pesticides qui étaient destinées à l'alimentation des animaux. Mmh. Mais on voit que, par exemple, en Afrique, Bayer Monsanto s'intéresse aux haricots, par exemple, qui est consommé directement par les populations locales. Mmh. Donc, il y a vraiment un enjeu de souveraineté alimentaire derrière tout ça. Donc, oui, il y a des traités internationaux. On pense que ce droit international est supérieur au droit européen. Et voilà, il faut essayer de jouer cette carte, effectivement, pour faire valoir le droit des paysans. Voilà, la Confédération paysanne, à travers Via Campesina, qui est son organisation internationale, s'est beaucoup investie sur ce droit des paysans, sur le droit de ressemer ses propres semences. Et c'est voilà, là-dessus qu'il faut essayer de jouer aussi.
Ça marche. Et une étude Kantar Public pour Greenpeace a évalué que 90% des Français veulent que la réglementation sur les OGM se maintienne. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, en tant que citoyen, pour lutter contre ce projet de réglementation-là en particulier ?
Ben déjà, il y a une pétition en ligne, et donc je pense que ça serait bien qu'elle regroupe un maximum de signatures, hein, voilà, parce que c'est en fait là on est devant un problème de lobby, hein, très clairement, avec le lobby des semenciers qui est très bien organisé, 5 firmes semencières au niveau international qui détiennent 80%, je crois, ou peut-être un petit peu moins, c'est peut-être 70, mais bon, % du marché des semences certifiées, voilà, et très clairement bidonnant, et ça a été instruit plusieurs fois par les journalistes, des études, et instrumentalisant des scientifiques pour dire que voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, avec comme seule ambition le business, de toute façon. Hein, voilà. On peut dire aussi quand même que ce business des semences, il est très lié au développement du commerce international, et aux profits que peuvent sentir, vouloir faire, en tout cas, ces firmes. Voilà, hein, tout simplement. Donc, par exemple, les accords internationaux qui ont déjà été signés par exemple, le dernier accord international avec la Nouvelle-Zélande, qui a fait l'objet d'un vote favorable du Parlement européen, bah, typiquement, ça va dans ce sens-là, de marchandisation du vivant et d'extension des marchés.
Ça marche. Merci Xavier. Si vous voulez en savoir plus sur cette question des nouveaux OGM, on vous recommande la vidéo de l'ami des lobbies et Polynice que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous pouvez également retrouver sous cette vidéo, dans la description, le lien de la pétition que nous vous invitons à signer et à partager. Merci vraiment Xavier de ta présence. Merci à vous, auditeurs et auditrices de Radio B, pour votre écoute.
Merci à tous.
On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique. La Conf vous souhaite une belle fin d'année à toutes et tous. Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'An. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous.